Vaccine, I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, cause once you're dead, then that's a bit too late.
Salut Raphaël.
Salut Patrick.
Donc c'est Dolly Parton, on la félicite pour l'effort, encore une voix, disons, assez... très, très bonne, même à 75 ans. Et là, ben, elle jazzait un peu comme ça là, sur son vieux hit Jolene, mais pour inciter les gens à se faire vacciner.
Ouais, exact. Écoute, je sais que tu as fait jouer plus tôt dans l'émission avec Catherine, mais je ne pouvais pas m'empêcher. C'est tellement un icône américain. Et c'est que c'est directement en lien avec ce dont on va se parler, c'est-à-dire la vaccination aux États-Unis. On s'en est parlé hier. On s'est parlé du projet quand même assez fulgurant qu'on voit aux États-Unis. Je veux qu'on se parle des bonnes nouvelles potentielles qui s'en viennent liées à ce progrès-là. C'est-à-dire que on s'attend à ce que dans les prochaines heures, peut-être d'ici demain, au plus tard, sans doute d'ici vendredi, ce qu'on appelle les CDC, les Centers for Disease Control, un petit peu l'équivalent de Santé Canada là, aux États-Unis, sortent avec une liste de recommandations formelles pour les personnes qui ont été vaccinées. Autrement dit, ce qu'on risque de faire, c'est ouvrir la porte à l'idée que des personnes qui ont été vaccinées puissent se rassembler à l'intérieur sans masque. Ça, on s'entend là, que depuis à peu près un an, ce serait une première. Il y a une condition qui est importante, et en fait, il y en a deux, c'est que ce soit fait en petits groupes et que tous les membres du groupe aient été vaccinés. Parce que ce qu'on dit du côté des CDC, c'est que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas atteint ce qu'on appelle évidemment l'immunité collective, même si vous, personnellement, vous avez été vacciné, il y a quand même des risques potentiellement importants de continuer, d'arrêter les mesures de protection parce qu'évidemment, vous pouvez potentiellement contaminer quelqu'un qui n'a pas encore été vacciné. Fait qu'il y a ça qui est potentiellement positif. Faut comprendre aussi que ça arrive pas dans un vase clos. Ça arrive dans un contexte où, depuis plusieurs jours, des gens comme le Dr Fauci, les experts scientifiques du président Biden, se font demander à répétition, quand ils interviennent dans les médias américains, elle est où la lumière au bout du tunnel? Et c'est un petit peu une façon d'adresser aussi la récalcitrance de plusieurs Américains à se faire vacciner. Autrement dit, on leur offre quelque chose qui est concret, qui est personnel et qui est dans le très court terme. Donc, il y a ça qui s'en vient. On se parle de récalcitrance. Je te mentionne ceci comme histoire. On se parle beaucoup moins de Donald Trump là, depuis quelques temps, mais là, je pense que c'est quand même important qu'on s'en parle dans le contexte de ce qui est sorti hier. Tu as sans doute vu comme moi, là, révélation quand même assez choc. Là, comme quoi, l'ex-président et l'ex-première dame, qui évidemment ont tous les deux été infectés. Dans le cas du président, de l'ex-président, il a été hospitalisé, on s'en rappellera là, à l'automne dernier, ont été vaccinés. Quand Trump était encore en fonction, et ça a été fait totalement secrètement, comme je te dis, on l'a appris hier. Et où c'est important ça, c'est justement au niveau de l'aspect sanitaire de la chose. C'est pas simplement une question là, d'éthique de gouvernance ou de manque de transparence. C'est que, ça aussi j'en ai parlé à quelques reprises depuis les dernières semaines, mais la récalcitrance à se faire vacciner aux États-Unis comme tellement de choses, c'est profondément partisan, c'est politique. Le clivage est immanquable. Ce sont statistiquement nettement plus les supporters de Donald Trump qui se disent récalcitrants à se faire vacciner. Autrement dit, s'il y en a un, Pat, qui serait bien placé pour leur parler, les convaincre, ne serait-ce que par son exemple, en prêchant par l'exemple, c'est lui. Et non seulement il le fait pas, mais il se fait vacciner en cachette. T'sais, c'est quand même assez incroyable comme histoire.
Est-ce que la nouvelle est confirmée? Hein? Parce que là, il y a plein de gens qui m'écrivent pour me dire c'est une fake news, c'est pas vrai, etc. Puis je te dis, là, on le sait, toi et moi, là, quand ça vient à Trump, là, disons, c'est parfois assez sensible.
T'as raison, effectivement, c'est assez sensible. De tout ce que j'ai vu, ça semble vrai. Si tu veux, je te reviens d'ici demain avec une confirmation encore plus solide, mais à l'heure actuelle, personnellement, j'ai rien vu qui me laisse croire que ce n'est pas vrai. Et le principal intéressé, on s'entend qu'il est le premier à sauter à l'avant-plan quand il se croit victime d'une fake news. Il n'y a pas eu un mot à dire là-dessus encore aujourd'hui. Bon, je le note quand même.
Raphaël, parmi ceux et celles qui confirment la nouvelle qu'il a été vacciné, il y a Maggie Haberman, la columniste du New York Times, qui a fait carrière au cours des deux ou trois dernières années à suivre Donald Trump, qui a des contacts privilégiés avec des membres de son équipe. Et elle cite dans son papier qui a été publié un petit peu plus tôt cette semaine, un de ses conseillers pour dire que lui et sa femme ont bel et bien été vaccinés.
Et si je peux me permettre de renchérir là-dessus, là, pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont peut-être pas aussi familiers que Patrick ou Philippe ou moi, on peut l'être avec Mme Haberman. Elle est solide. C'est pas juste une question de sa position là, au New York Times. Elle est solide. Okay. Normalement, quand elle imprime quelque chose, on peut s'y fier.
Très bien. Raphaël, tu veux aussi nous parler d'une nouvelle entrevue là, ce matin qui fait beaucoup réagir sur le rôle des divisions raciales dans l'électorat. Il s'agit d'une analyse de ce qu'on appelle les midterms de 2020.
Oui, en fait, l'élection présidentielle de 2020 et les midterms de 2022, ouais, qui s'en viennent l'an prochain, les élections de mi-mandat. Et, écoute, c'est fascinant parce que c'est un analyste démocrate qui dit que son parti doit faire attention de ne pas aller trop loin sur des enjeux, en guillemets, socio-culturels, comme par exemple l'idée de couper le financement à la police, là, comme ce qu'on a vu, évidemment, lors de la dernière campagne, pendant la dernière campagne, celle de 2020. Pourquoi? Parce que c'est en train, potentiellement, de coûter des appuis, crois-le ou non, aux démocrates au sein des communautés minoritaires au niveau ethnique aux États-Unis, des communautés ethniques. Parce que ce sont des mouvements qui sont davantage supportés par des Blancs, en fait. Des Blancs universitaires issus de milieux urbains. Ce que ce type-là dit, et je le dis là sur les médias sociaux, on ne parle à peu près que de ça dans ce milieu-là aujourd'hui, c'est que le point de fracture à surveiller dans les prochaines élections aux États-Unis, c'est pas la race, c'est pas le sexe, c'est l'éducation, le niveau d'éducation formelle. Parce que pour les démocrates, il y a un risque de perdre donc des Noirs, des Hispaniques qui n'ont pas, par exemple, de diplôme universitaire et qui ont culturellement peut-être plus en commun, qui sont peut-être plus conservateurs au niveau social, comme des Blancs sans diplôme universitaire. Et que le clivage, c'est davantage donc entre tout ce monde-là et les gens qui ont atteint, disons, un niveau d'éducation formelle plus élevé. Fait que c'est vraiment intéressant parce que ça nous force à voir les divisions politiques américaines de façon vraiment différente.
OK. Et il y a une ville de Californie qui a tenté une expérience avec le revenu minimal garanti, puis là, on a les résultats.
Oui, je sais pas si tu te rappelles de ça. Je t'en ai parlé brièvement il y a à peu près un an. En fait, ça fait un peu plus d'un an, c'était avant la pandémie. La ville de Stockton, en Californie, qui a essayé une espèce d'expérience là, avec ce qu'on pourrait appeler le revenu minimum garanti. Donc, donner un chèque sans aucune espèce de corde ou d'obligation à ses citoyens les moins nantis. Parce qu'on voulait tester certaines hypothèses qu'on avance depuis des années à l'effet de quoi, ben peut-être que payer les gens pour rien faire, ça va encourager en fait la paresse. Ça va leur donner un désincitatif à travailler. Or, on a une étude qui est parue aujourd'hui qui démontre que c'est tout le contraire. Ça fonctionne. Fait que non seulement ça aide les gens à travailler davantage parce que ça leur donne une espèce de stabilité qui leur permet plus facilement de se chercher un emploi, mais en plus, au niveau de la santé, ça aide parce que même si l'argent, techniquement, ça fait pas le bonheur nécessairement, quand tu as au moins un certain niveau minimal, oui, ça peut t'aider à la fois au niveau de la santé mentale et de la santé physique. Fait que, écoute, c'est vraiment fascinant et ça peut peut-être percoler ailleurs aux États-Unis.
Merci, Raphaël.
À demain.
OK, 16h55, on va décrocher dans quelques instants. On va faire une pause et au retour à 17h, ben, on va diffuser en direct la conférence de presse de François Legault. Il semble que on va déconfiner on va faire passer les zones oranges, les zones rouges, pardon, en zone orange, sauf pour ce qui est de Montréal. Merci Philippe Quentin.
Salut Patrick.
Madame Beauchamp, vous restez avec nous, on va se retrouver
absolument
en fin d'émission. OK, petite pause, conférence de presse du premier ministre au retour.